Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Et Dieu créa la femme de la côte d'Adam, il la sortit. Ève, tel fut le nom qu'Adam lui donna, mère de tous les vivants. Rayonnante, Adam en fut transfiguré dans son être comme dans sa vie. Devant le regard admiratif de sa compagne, il découvrit sa puissance et sa prestance. Très épris l'un de l'autre, ils coulaient des jours radieux. Leur union était parfaite, c'était le paradis. C'était presque une union parfaite, c'était presque le paradis. L'auteur de ce livre, Et Dieu créa la femme, est mon invité aujourd'hui et jusqu'à la fin de cette semaine. Elle est journaliste, travaille pour le journal de France catholique, auteur de deux ouvrages, dont celui-ci paru en 2020 aux éditions DMM, édition très peu connue. Marie-Yvonne Gass, bonjour.
Bonjour.
Ravie de vous recevoir, auteur de ce livre paru en 2020, paru en pleine crise, une certaine crise sanitaire que nous avons traversée, que nous connaissons. Dites-nous le comment, le pourquoi de l'écriture de ce livre, puisqu'au cœur de ce livre, de nombreux visages féminins, de nombreux visages héroïques de femmes apparaissent, de Sainte Jeanne d'Arc, Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Catherine de Sienne, Sainte Edith Stein, bien sûr, on n'oublie pas aussi la place de la Vierge Marie. Pourquoi ce livre ?
Eh bien, il y a très longtemps, je crois que ça fait presque 40 ans, j'avais assisté à une conférence d'un théologien qui s'appelle Jean-Miguel Garrigue, et qui posait cette question qu'on retrouve dans un livre d'ailleurs, La grâce d'être femme. Et il disait, si tout va si mal, est-ce n'est-ce pas parce que le mystère de la femme est méconnu tant par l'homme que par la femme? Et c'est une question qui m'avait beaucoup, beaucoup interrogée, parce que moi-même, j'avais du mal à trouver ma place dans, pas dans la société, mais plutôt dans l'Église. Et je m'interrogeais, et il m'a envoyé, il avait cité à ce moment-là le livre de Gertrude van Lefort, La femme éternelle, qui m'avait beaucoup, beaucoup touchée. Et donc, à partir de là, quand j'étais journaliste à Famille Chrétienne, j'ai fait un certain nombre de petits articles, en abordant brièvement. Et la retraite arrivée, je me suis dit, mais j'ai envie de les articuler et d'approfondir le sujet. Donc je me suis aventurée, et ça a donné ce petit essai.
Alors, je lis un extrait de ce livre, Et Dieu créa la femme, une édition peu connue, donc je redis le nom de l'édition DMM. Vous écrivez, par sa désobéissance, et là vous parlez de la première Ève avait fermé le paradis, par son obéissance, la nouvelle Ève le rouvre et lui donne un nouvel élan, plus puissant et plus profond par son etché. Elle nous entraîne dans son offrande qui exorcise le mensonge induit par le diable et guérit des désordres du péché par son fiat. On voit dès le début de votre ouvrage se mêler cette première femme, Ève, et la nouvelle Ève qui apparaîtra, Marie. Qu'est-ce que vous avez envie de donner et de dire à l'auditeur, l'auditrice, qui est peut-être en lutte, je dirais, avec peut-être sa vocation de femme ou en lutte avec la femme tout court?
Eh bien, nous avons tous les conséquences du péché que Ève a induit. Donc, nous avons bien ces fameuses concupiscences qui sont les trois concupiscences, le paraître, l'orgueil de l'esprit, l'appât du gain, voilà. Et nous avons, par le baptême, ce modèle suréminent de la Vierge Marie. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la façon dont l'Église, comme s'il y avait une espèce d'accélération de l'agenda marial, promulgue depuis un siècle des dogmes et une place éminente, d'ailleurs que le Concile Vatican II a très bien mis en avant, et qui peut-être n'est pas bien encore reçu dans la pastorale, dans l'Église. C'est-à-dire qu'à côté du pôle pétrinien, il y a le pôle marial. Pas tout à fait à côté, au-dessus, pour être très juste. Et ça, ce qui donne la véritable nature de l'Église, qui est avant d'être dans l'efficacité des programmes pastoraux, des commissions, etc. L'Église est féconde, elle est mère, elle enfante, et elle a cette dimension contemplative sans laquelle les fruits ne sont pas pérennes ou même n'apparaissent pas. Donc ce que j'ai voulu montrer, c'est que la vocation de la femme, qu'elle soit consacrée, célibataire ou mariée, Elle est appelée à donner la vie biologique, mais la vie spirituelle, la vie affective, la vie artistique. Il y a beaucoup de formes de la vie. Elle est maternelle, voilà. C'est ça que j'ai voulu mettre en exergue dans ce livre. Ce qui ne confisque pas, elle n'est pas que mère, elle peut déployer toutes ses harmoniques, mais ce mystère de la vie qui l'apparente à Dieu, au mystère de la Trinité, à la fécondité d'amour au sein des trois, qui se passe aussi bien dans la vie trinitaire elle-même, mais le don de la vie, c'est aussi les missions de la Trinité sur la terre. Et la femme a cette noblesse unique d'être associée à ce don de la vie. Et c'est ce qui est peut-être aujourd'hui...
Ce qui la rend unique.
Absolument.
Et ce qui la rend unique est un vrai danger pour, je dirais, l'ennemi de l'Église.
Pour
L'ennemi de l'Église.
Ah mais oui.
C'est redoutable.
Elle a
l'ennemi de l'Église ne supporte pas cette vocation première et ce grand mystère autour de la femme de donner la vie, la fécondité.
Ben, on voit bien que toutes les attaques, qu'elles soient dans le monde même civique, avec les lois bioéthiques qui arrivent, mais même une façon d'envisager la pastorale, qui est peut-être un petit peu activiste parfois. Bien sûr qu'il faut mettre tous ses talents, il faut employer des techniques, etc. Mais surtout, il faut puiser dans la prière, dans l'intériorité, dans la patience, dans le mystère de la croix. Puiser ce que l'esprit, dont on ne sait ni d'où il vient, ni où il va, suggère au cœur. C'est absolument primordial. Et après, les choses s'accomplissent. Peut-être dans le combat, peut-être. Mais ce creuset de la prière, de l'intériorité, est absolument essentiel. Et quand la femme y renonce, alors à ce moment-là, elle abandonne le monde, que ce soit le monde profane ou l'Église, à une espèce d'escalade de la compétitivité qui honore les plus forts et écrase les plus faibles. Et là, je crois que la femme, elle a un rôle absolument essentiel pour sauver, pour montrer que toute vie a une valeur, quelle que soit sa place sociale, son handicap, la vie en soi est un trésor.
La femme qui renonce, vous avez parlé de renoncement de cette intériorité. Si la femme renonce à ce combat, parce qu'il y a une lutte aussi pour préserver cette vie intérieure, elle perd beaucoup. Est-ce qu'elle perd au fond, si on devait parler d'identité, oui, son identité de femme, sa vocation profonde de femme.
Alors,
est-ce qu'elle se met en danger
de
vie ou de mort?
Complètement, et la société avec. Alors dans le petit essai, j'ai essayé de camper de façon un petit peu caricaturale, enfin non, à peine, deux types d'amour, l'un qui est oblatif et l'autre captatif. Et donc deux types de femmes. Il y a la femme qui se réserve, qui se construit dans l'intériorité, dans le don de soi, et il y a la femme qui a besoin de se montrer pour séduire. Donc elle est ou séductrice ou médiatrice d'une certaine façon. Et dans le livre de Gertrude van Lefort, l'auteur dit que la femme, c'est par elle que les mystères spirituels et les mystères chrétiens peuvent advenir. Quand la femme entre dans la relation, si elle entretient une certaine réserve, une certaine justesse dans la relation, et peut-être quelquefois une certaine distance, mais avec tact, charité, j'ai envie de dire, et même quand elle sait se refuser, à ce moment-là, l'autre s'interroge. Pourquoi est-ce que... Et elle renvoie à des questions plus profondes, métaphysiques, spirituelles. Et c'est peut-être par là qu'elle est médiatrice du mystère religieux, du mystère spirituel. Mais si elle est une femme, comme la mode l'y invite, à se dénuder tant physiquement que moralement que psychologiquement, il n'y a plus de mystère. Donc à ce moment-là, on est abandonné à la superficialité et au jeu des instincts. Donc la femme, effectivement, elle se dénature et elle se perd. Elle n'est plus, comment dire, elle n'est plus porteur de ce mystère qui est un trésor fragile mais vital.
En fait, en touchant au mystère profond de la vocation de la femme, on touche ce mystère aussi de la création de Dieu.
Oui, puisque...
Et aujourd'hui, cette création de Dieu par cette création aussi de la femme est dénaturée.
Oui, on le voit avec, puisque maintenant on va presque créer des utérus artificiels. Je pense que la femme est abîmée non seulement dans sa vocation, si elle est abîmée dans sa vocation, donc on a dit qu'elle était combattu sur le plan de l'intériorité, toujours se montrer, toujours être plus performante, toujours être plus belle, toujours être plus jeune. Donc elle n'est pas dans l'acceptation d'elle-même. Et comment dire, elle...
Elle n'est pas dans l'être, mais elle est dans se paraître, hein, toujours à l'extérieur.
Dans se paraître, c'était... Oui, oui, et puis cette fébrilité, il faut toujours être la meilleure. Il faut être non seulement soi-même, mais il faut toujours prouver qu'on est la meilleure. Donc, on n'est jamais dans la paix. Et à ce moment-là, on est sourd à son entourage, on n'écoute plus personne. Donc, on voit que c'est la charité qui n'a plus de place.
Et où est la place de la liberté, au fond, quand on décrit, que vous décrivez cette femme d'aujourd'hui?
Alors, quand elle est victime
fébrile et très active.
Voilà, elle est victime de... Elle doit séduire. Elle doit séduire sur le plan physique, elle doit séduire, être performante sur le plan intellectuel, elle doit être sur tous les plans. Et quand elle est mère de famille, on voit qu'elle est dans une agitation perpétuelle. Et ça, qu'est-ce qui agite? C'est le démon, en général.
L'agitateur.
L'agitateur, c'est le démon. Et on voit bien que la maladie... spirituel, la sédie, c'est, ça vient souvent d'un activisme qui fuit la crainte du vide intérieur. Quand il n'y a pas de vie intérieure, on cherche toutes les occasions de s'activer à droite, à gauche, et donc on ne puise pas le trésor qu'on a soi-même en étant créé à l'image de Dieu.
Alors, des trésors et cette création à l'image de Dieu, et puis retrouver finalement, se réconcilier avec ce créateur, Dieu le Père, hein, puis se réconcilier avec ce mystère de la femme et sa vocation de femme. C'est un peu l'objet enfin de ce livre où vous relatez aussi, vous revenez sur des visages de femmes percutantes qui ont marqué aussi l'histoire de l'Église. On nommait Catherine de Sienne, Sainte Thérèse d'Avila et bien d'autres. Marie-Yvonne Gasse, auteure de ce livre Et Dieu créa la femme, nous poursuivons toute cette semaine et nous consacrons cette série des clés pour vivre, pour vivre pleinement sa vocation de femme ou se réconcilier avec sa vocation de femme, son identité. Enfin, voilà, c'est un beau cheminement avec vous cette semaine. Rendez-vous demain à la même heure.
Merci.